s'allume.
Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi. Et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi.
Accepte.
Accepte ton offrande, ô Jésus, Fils de Dieu,
et que sur moi,
et que sur moi descende ta flamme, Seigneur.
Père, c'est devant toi que nous nous tenons une fois de plus ce soir et nous prions que tu continues à nous faire du bien, qu'au fur et à mesure que nous avançons dans cet enseignement, que tu opères des miracles au sein de nos familles. Nous avons besoin de ta grâce pour communiquer ta pensée et nous te rendons grâce de ce que tu es là, fidèle à ta parole, fidèle à tes rendez-vous. Bénis, Seigneur, cette parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, ou bonjour. C'est encore un privilège que d'être cet après-midi avec vous. Et avant d'entamer le thème d'aujourd'hui, j'aimerais demander s'il y a quelqu'un qui est rentré ou qui est venu avec une préoccupation en rapport avec ce que nous avons partagé hier. Est-ce qu'il y a une question? J'aimerais prendre une question, s'il y en a. Oui.
Bien-aimé, bonsoir.
Bonsoir.
Oui. J'ai une question par rapport au message introductif d'hier. Hier, vous avez parlé de l'éducation des enfants qui constitue une base solide pour la famille et pour les pays. Alors, dans nos familles africaines, parfois, nous avons du mal à éduquer nos enfants parce que vous pouvez amener vos enfants sur une voie que vous voulez qu'ils puissent suivre, mais il y a l'environnement. Par exemple, le membre de famille qui sort dans la maison, peut-être qui peuvent aussi constituer une difficulté pour les parents afin de montrer les enfants dans une voie que vous vouliez qu'ils puissent suivre. Je ne sais pas comment on va faire pour que vous puissiez entraîner et vos enfants et les autres membres de la famille qui sont dans la maison dans une même direction. Parce que parfois, ils viennent avec d'autres idéologies et qu'ils peuvent aussi manifester dans la maison et qui peuvent constituer une difficulté pour l'éducation de vos propres enfants. Merci.
Merci beaucoup. Merci pour cette question parce que la réponse à cette question, c'est le message d'aujourd'hui. Donc, si je commence à y répondre, je vais déjà sauter beaucoup de choses. Alors, merci beaucoup. Je bénis le Seigneur pour cette question. Si vous avez d'autres questions, je vais vous encourager à les mettre par écrit. Et je vais prendre les premières minutes chaque fois pour répondre aux questions qui sont posées avant de commencer le nouveau sous-thème. Je répète la question. La question, c'est de savoir comment assurer une bonne éducation à nos enfants face aux influences auxquelles ils sont exposés, et notamment les influences qui peuvent survenir de la maison même à cause des personnes qu'on a invitées dans la famille pour vivre avec nous. OK, très bien. Alors, si vous avez vos Bibles, j'aimerais vous inviter à l'ouvrir dans Genèse chapitre 3. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 9. C'est une longue lecture, mais ça vaut la peine. Genèse 3. 1 à 9. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était où? Auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ?» Parole du Seigneur. Où es-tu? Aujourd'hui, le thème, je l'ai intitulé « Où est le père de ma famille ?» Où est-il? Où es-tu, père de la famille? C'est le cri que poussent beaucoup de familles aujourd'hui. Où est papa? Beaucoup de mères ont du mal à répondre à cette question. Parce que cette question n'a pas une réponse simple. Où es-tu? Lorsqu'on pousse un cri comme celui-là, où es-tu, père de la famille? Cela veut dire que la stabilité de la famille est déjà en danger. C'est ce que ça veut dire. La stabilité de la famille est déjà en danger. Alors on appelle le père, où es-tu? Dieu a placé l'homme et la femme dans le jardin. Quelque chose d'anormal s'est passé. Et Dieu vient voir qu'est-ce qui s'est passé. Et Dieu appelle le père, où es-tu? Où es-tu? Les statistiques montrent l'ampleur du danger qui frappe les familles aujourd'hui. Je vais vous partager quelques chiffres. Ce sont des statistiques qui sont tirées des enquêtes menées aux États-Unis. Quand un enfant grandit dans une famille où le père est absent, premièrement, le risque pour cet enfant de vivre dans la pauvreté est multiplié par 4 par rapport à un enfant qui grandit dans une maison où il y a un père. Dans une maison où le père est absent, le risque pour un enfant de vivre dans la pauvreté est multiplié par 4. Quand le père est absent de la famille, le risque de développer un comportement agressif, le risque que l'enfant développe un comportement agressif est plus élevé. Quand le père est absent, le risque pour une fille de tomber enceinte dans l'adolescence est multiplié par 7. Quand le père est absent, le risque pour un enfant d'abandonner l'école à l'école secondaire est multiplié par 2. Quand le père est absent, le risque est plus élevé que l'enfant consomme l'alcool et la drogue de manière abusive. Quand le père est absent, le risque pour un enfant d'être victime de maltraitance et de forte négligence est multiplié par 8. Alors, on a raison de poser la question, papa, où es-tu? Où es-tu? Ce n'est pas seulement le cri de la famille, mais c'est aussi le cri de Dieu lui-même. Dieu lui-même, parce qu'il sait ce qu'il a créé lorsqu'il a mis l'homme et la femme ensemble dans un même lieu. Il sait ce qu'il a fait. Alors ce cri, où es-tu, signifie qu'on est à la recherche du père de la famille. Mais qui est ce père que la famille recherche? Qui est ce père? Qui est-ce qu'on cherche quand on dit « Où es-tu ?» Quand Dieu dit « Où es-tu ?» Qui est-ce qu'il cherche? Quand la famille crie « Où es-tu, Père ?» Qui est-ce qu'on est en train de chercher? C'est la première question à laquelle j'aimerais répondre. Celui qu'on est en train de chercher, c'est le père de la famille. La famille en a besoin pour sa stabilité. La famille en a besoin. Hier, nous avons montré à quoi ressemble une famille instable ou une famille fissurée. Nous en avons parlé hier. Ce qu'on cherche à travers cette question, où es-tu? Ce n'est pas seulement un géniteur. C'est un père qu'on cherche. Pas tout simplement un géniteur. Il y a une différence, bien-aimé dans le Seigneur, entre être père et être un simple géniteur. Un géniteur, c'est qui? C'est quelqu'un, c'est un homme, un homme qui a donné son patrimoine génétique pour la fabrication de l'enfant, biologiquement. C'est ça un géniteur. Mais un père, c'est plus qu'un géniteur. Après le péché originel, après le péché, après que l'homme et la femme aient péché, les deux ont péché. La Bible dit qu'ils ont mangé de l'arbre. La femme a mangé. Et elle a donné à son mari qui était à côté d'elle. Contrairement à ce qu'on pense parfois, on pense que lorsque la femme parlait avec le serpent, l'homme n'était pas là. Il était là, à côté. Il a entendu toute la conversation. Il était là, témoin. Quand ils ont péché, après qu'ils aient péché, Dieu n'a pas appelé la femme. Dieu a appelé l'homme. Il a appelé l'homme. Et quand il appelle l'homme, Dieu n'est pas à la recherche de la position géographique de l'homme dans le jardin. Non. Quand Dieu dit à l'homme, où es-tu? Il n'est pas en train de lui demander, est-ce que tu es au nord du jardin? Ou au sud? Ou à l'est? Non. Dieu n'est pas perdu. Cette question n'a pas pour but de donner à Dieu l'information sur la position de l'homme. Quand Dieu pose une question, ce n'est pas parce qu'il cherche que vous puissiez lui donner l'information. Il est omniscient. Il connaît tout. Il est omniprésent. Il est partout. Même là où Adam était allé se cacher, Dieu était là. Donc quand Dieu dit « Où es-tu ?» Ce n'est pas parce qu'il n'arrive pas à les voir. Non. Ce n'est pas ça. Quand Dieu dit « Où es-tu ?» Dieu interpelle l'homme. Il veut que l'homme réalise quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut que l'homme réalise? Il veut que l'homme réalise son rôle. Son rôle. Je t'ai confié une position. Je t'ai créé en premier. Et c'est à toi que j'ai donné le commandement. Ensuite, je t'ai donné une femme pour t'aider. Je t'ai confié une responsabilité. Et maintenant que le danger est entré dans ta maison, qu'as-tu fait de la responsabilité et du pouvoir que je t'ai donné, de l'autorité que je t'ai donné? Où es-tu dans ton rôle de chef? Où es-tu? Genèse chapitre 3, verset 17. La Bible dit, Dieu dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. » Voyez? Le péché est entré dans la première famille parce que le père, Adam, a manqué d'exercer son leadership. Il a manqué à exercer son leadership. Lorsque le danger est arrivé, il a fait le choix d'écouter sa femme. Dieu ne reproche pas ici à Adam d'écouter sa femme. Non. Ce que Dieu est en train de reprocher à Adam, c'est que Adam s'est soumis au désir de sa femme. La Bible dit que la femme vit que le fruit était bon. La femme a commencé à convoiter ce qui était interdit. Et elle a entraîné son mari dans la convoitise. Et son mari connaissait ce qu'il fallait faire. Mais il a cédé. il a fait le choix d'obéir à sa femme. Et en obéissant à sa femme, il a cessé d'exercer l'influence, le leadership que Dieu attendait de lui, d'exercer son autorité lorsque le danger est arrivé. C'est ça que Dieu reproche à l'homme. Le père qu'on cherche lorsqu'on dit « Où es-tu ?» c'est le père qui sait exercer son leadership. « Où es-tu ?» ça veut dire « Où est ton leadership, père ?» Parce que la stabilité de la famille en a besoin. Le père qu'on cherche, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est venu, il a fait l'enfant et puis il est parti. Non, celui qu'on cherche, c'est un homme qui a accepté de prendre ses responsabilités. Il a accepté de prendre ses responsabilités. Il a accepté de faire preuve de leadership par son temps, sa présence, par son attention. Il a pris la décision d'exercer son leadership en utilisant ses ressources spirituelles, matérielles, financières, de mettre en jeu tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, pour que la famille demeure stable. Père, ce n'est pas tout simplement une position dans la famille. Être père, ce n'est pas occuper une chaise particulière dans le salon. Non. Être père ne signifie pas tenir la télécommande. Non. Le père que la famille cherche, c'est un homme qui joue pleinement son rôle dans la famille. Et lorsque vous arrêtez de jouer ce rôle, père, tôt ou tard, votre position sera contestée. Vous voyez? Si vous vous contentez d'être le géniteur, si vous vous contentez d'être celui dont les enfants portent le nom, et que vous ignorez, vous abandonnez votre rôle, un jour, vous allez chercher à exercer ce rôle et il sera contesté. Oui. On vous posera la question, où étais-tu? Tu étais où? C'est maintenant que tu te réveilles. Beaucoup de pères ont eu du mal à influencer les choix de leur fils, le choix de mariage, le choix de carrière et beaucoup d'autres choix. Et même le choix d'hériter. Il y a des fils qui ont refusé d'hériter. Tu es mon fils, tu es ma fille, c'est toi qui dois. Le fils, il dit non, trouve quelqu'un d'autre. Tu es mon fils, je sais, là où tu vas, il y a tel danger. Et il a raison, il a raison. Mais c'est trop tard, c'est trop tard. Où étais-tu, père? Et j'imagine que c'est une grande souffrance pour un père d'avoir un enfant qui ne lui ressemble pas. Vous avez un enfant et vous regardez son comportement. Vous ne vous retrouvez pas dans cet enfant. Vous avez l'impression que quelqu'un d'autre a élevé cet enfant parce que vous avez été absent. Père, où es-tu? Il y a des pères qui se sont réveillés à un moment donné. 3 ans, 4 ans après le mariage, ils ne reconnaissent plus la femme qu'ils ont épousée. Elle a complètement changé. Les mœurs, les habitudes et même le langage. Mais tu ne parlais pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu te pose la question, où étais-tu quand cela se produisait? Quand elle se faisait courtiser par le serpent, tu étais où? Tu étais où? Alléluia. Est-ce que je parle à un père cet après-midi? Le papa a dit amen. Est-ce que les papas sont là? Les papas présents et les papas futurs. Est-ce qu'ils sont là? Alléluia, les papas. Oui. C'est à vous que je m'adresse, cher Père, et c'est à moi-même que je m'adresse aussi. Parce que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Mais c'est aussi aux mamans que je m'adresse. Parce qu'elles ont une grande responsabilité. C'est elles qui élèvent les pères d'aujourd'hui. Je connais un couple qui a divorcé. Ce couple a divorcé par la volonté de la maman du mari. Oui. La mère du mari s'est levée un jour, elle a dit, en tout cas, si cette femme ne veut pas que tu écoutes ce que je te dis, elle n'a qu'à partir. Je suis ta mère. C'est moi qui t'ai enfantée. Elle est venue après. Elle n'a qu'à s'asseoir. C'est moi qui vais lui apprendre comment s'occuper de toi. Parce que c'est moi qui t'ai accouché. Voilà. Les mamans, alléluia. Alléluia, les mamans. Oui. Dans cette famille, lorsqu'on pose la question, papa, où es-tu? La réponse, je suis chez ma maman. Oui. Il est tout, sauf un leader. Maman, est-ce que tu es capable d'élever un leader? Est-ce que tu es prête à élever quelqu'un qui sera indépendant de toi? Est-ce que tu es prête à élever un homme qui va te quitter? Parce que c'est biblique. L'homme quittera son père et sa mère. S'il n'a pas encore quitté, il n'est pas encore un homme. Alléluia. Maman, la preuve qu'il est devenu un homme, c'est quand il te quitte. Quand il commence à te manquer, ça veut dire qu'il est devenu un homme. Tu dois rendre grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia, les mamans. Tu dois dire, Seigneur, merci parce que tu m'as enfin donné un homme. Marie, la mère de Jésus, a connu ça. Oui. La Bible dit qu'à un moment donné, le vin a manqué. Jésus est invité dans un mariage. Jésus est invité. Son fils est invité. Son fils qui a 30 ans est invité. 30 ans, c'est l'âge où on commence le ministère sacerdotal, où on peut exercer le ministère. Donc, il est déjà mature. Il est invité. Il a même des disciples. Il y a des gens qui le suivent. Et dans la fête, le vin manque. Et la maman vient. Oui, mon fils, il n'y a pas de vin. Oui, il n'y a pas de vin. Elle n'a pas amené cette requête pour rien. Elle connaissait son fils. Oui, elle connaissait ce que son fils est capable de faire. C'est pourquoi elle est venue dire, mon fils, il n'y a pas de vin. Et Jésus lui a dit quoi? Oui, maman. Je vais... C'est ça? Non, non. Jésus ne l'a même pas appelée maman. Jésus a dit femme, femme. Un peu pour lui dire, oui, tu es ma mère, femme. Ça veut dire arrête un peu, arrête un peu. Binatosha. Là où nous sommes arrivés, je n'ai plus besoin de tes instructions. Oui. Alléluia. Alléluia, les mamans. Oui. Là où nous sommes arrivés ici, je n'ai plus besoin de tes injonctions. Tu as de bonnes intentions. Mais ce n'est plus le moment. Tu as fini ton travail. Oui. Tu as déjà élevé un homme mature. Laisse-le. Alléluia. Laisse-le exercer son leadership. Où es-tu, papa? Je prie que le Seigneur entende des réponses à cette question. Quand le Seigneur dit « Où es-tu ?» Que les hommes se lèvent et disent « Me voici, Seigneur, me voici !» Quand le Seigneur passera à Gomaville et circuler dans les familles de Gomaville, et le Seigneur demande « Où es-tu ? Où es-tu ?» Il va trouver les mamans le mardi. « Où es-tu ? Où es-tu, Père ?» Bon, qu'est-ce que les pères vont répondre ? Plaise à Dieu que dans cette paroisse, que les pères soient en mesure de se lever, de dire « Me voici, nous voici, nous sommes là où tu nous as placés. Nous sommes en train de jouer notre rôle dans cette paroisse où tu nous as plantés. Nous n'avons pas quitté notre poste, nous sommes là. Nous n'avons pas abandonné nos responsabilités, nous sommes là. Le danger est entré, mais nous sommes là, nous sommes là. Alléluia, les papas. Les papas en ligne, alléluia. Comment exercer ce leadership? Comment? Comment ce père est supposé exercer son leadership? Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de meilleur exemple de leadership que Christ lui-même. C'est le modèle suivant lequel nous devons bâtir. Christ est l'époux de l'Église. C'est lui le mari, l'époux parfait. Si je dois apprendre comment devenir un bon mari, un bon père, regarde la relation, comment Christ s'est comporté avec son Église. Regarde la relation entre Christ et l'Église. Jeune papa, tu veux savoir comment je deviendrai un bon papa? Regarde la relation entre Christ et l'Église. Comment Jésus-Christ s'est comporté vis-à-vis de l'Église? C'est ça le modèle. C'est ça le modèle. Jean chapitre 13, le verset 13 à 15. Jean 13, 13 à 15. Jésus parle, il dit ceci. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi laver les pieds, vous lavez les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné quoi ? Un exemple, afin que vous fassiez comme j'ai fait. Ce passage est riche en matière de leadership, bien-aimé dans le Seigneur. Comment l'homme va exercer son leadership dans sa maison ? Ce que ce passage nous enseigne sur le modèle du leadership selon Christ, je le résume par cette formule. Démonstration avant instruction. C'est ça la formule. Démonstration avant l'instruction. Jésus dit, je vous ai montré, je vous ai donné un exemple. Comme je vous ai donné un exemple, maintenant vous aussi, faites la même chose. Je vous ai démontré comment ça se fait. Maintenant, vous aussi, allez faire de même. Regardez le ministère de Jésus dans les évangiles. Vous allez voir ce modèle revenir partout. À un moment donné, les disciples ont demandé à Jésus, « Apprends-nous à prier. » Et Jésus va répondre en disant, « Lorsque vous priez, dites ceci. » Pourquoi les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier? Parce qu'ils avaient vu Jésus prier. Alléluia. Ils ont d'abord vu Jésus prier. Et après avoir vu Jésus prier, Jésus leur dit, maintenant vous aussi, priez. Les miracles, c'est la même chose. Ils ont vu Jésus faire les miracles. Et après, à un moment donné, Jésus les met, allez, deux à deux, maintenant allez, je vous donne le pouvoir, chassez les démons, guérissez les malades. Vous m'avez vu le faire, faites-le. Démonstration avant l'instruction. Voilà le modèle du leadership. Vous présentez le modèle, vous donnez l'exemple, vous montrez comment on fait ça. Et c'est après que vous donnez l'instruction. Combien de fois dans les familles, souvent, les enfants souffrent, bien-aimés dans le Seigneur. Les enfants souffrent. Vous dites à un enfant, va mettre tes chaussures, ferme les lacets. Mais il ne t'a jamais vu fermer les lacets toi-même. Vous voulez qu'il le fasse comment? Comment? Va laver les assiettes. Mais toi-même, il ne t'a jamais vu laver les assiettes. Il ne sait pas comment ça se fait. Donc avant de lui donner l'instruction, appelle-le, viens, vous allez dans la cuisine. Tu laves les assiettes. Et après avoir lavé les assiettes, tu as vu? Oui, j'ai vu, papa. Maintenant, fais comme moi. Voilà. Ça marche. Je commence à répondre à votre question. Parce que la question de mon frère Jaro, c'était une question qui vient d'une frustration. La frustration d'un père qui veut influencer ses enfants. Mais il constate que l'influence extérieure est plus forte que la sienne. Comment tu exerces ton leadership? Est-ce que tu as d'abord montré l'exemple? Oui. Si tu as montré l'exemple, les enfants, vous savez que les enfants, nous tous, nous avons été des enfants. Moi, en tout cas, je me souviens de beaucoup de choses de mon enfance. Oui, je me souviens. Les choses que mes parents m'ont appris et que je fais aujourd'hui, la majorité de ces choses sont des choses que je les ai vues moi-même faire. Ce qu'eux ne faisaient pas, je ne le fais pas. Oui, je ne le fais pas. Ça m'a déjà causé des problèmes, avec mon père en particulier. Non, je dois faire ceci. Je dis, ah, ok, ça va. Et il vient après, il constate que je ne l'ai pas fait. Oui. Parce que je ne crois pas que c'est ça. Parce que lui-même, quand il est dans cette situation, ce n'est pas ça qu'il a fait. Vous voyez, le pouvoir de l'exemple, le pouvoir de la démonstration. Oui. La Bible dit que Pierre est mort crucifié comme Jésus. N'est-ce pas? Oui. Mais à l'envers, d'après l'histoire, le pasteur peut confirmer. Vous pensez que quelqu'un va aller accepter de mourir comme ça? Si son maître, lui, il est mort sur un lit d'hôpital, et lui, il va aller mourir dans ces conditions-là. Impossible. Si Jésus était mort de vieillesse, Pierre n'allait pas accepter de mourir comme ça. Oui, n'allait pas accepter. Les disciples ont accepté le martyr parce qu'ils ont vu leur maître à la croix. Ils l'ont vu à la croix. Ils l'ont vu dans la gloire quand il entrait à Jérusalem. Mais ils l'ont vu aussi dans la vallée. Ils l'ont vu. Et beaucoup de leaders aujourd'hui ont du mal. Parce qu'ils amènent les foules, leurs suiveurs, à faire des choses qu'eux-mêmes, ils savent, ils ne le feront jamais. Oui. Démonstration d'abord, ensuite l'instruction. Bien-aimés dans le Seigneur, si dans nos familles, nous commençons à appliquer cette formule, il y a déjà des démons qui vont quitter nos familles sans la prière. Il y a des démons qui vont quitter, je vous assure, je vous assure, je vous assure. Ce que tu veux que ton épouse fasse pour toi, commence d'abord à le faire. Oui, c'est ce que le Seigneur a dit. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le. Parce que vous avez une idée très précise de ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Oui, alors faites-le. Maintenant, quand vous allez échouer, c'est là que vous allez comprendre que ce n'est pas évident. Plus vous allez changer de ton, n'est-ce pas? Comment on a pigé à Makaya, on a la chouvive, on a la chouvive. Pigé à quoi ouépek? Donne. Pima quoi anja? Où qui ça pima? Prochainement, quand tu vas constater qu'il y a trop de sel, tu vois? Quand tu as déjà essayé toi-même et que tu as échoué, n'est-ce pas?
Et maintenant, tu te retrouves devant ce poisson-là avec trop de sel. Tu vas revendiquer, mais le ton sera différent. Il y aura beaucoup d'amour dedans. Parce que tu as d'abord essayé. Alléluia. Amen, les mamans. La démonstration avant l'instruction. C'est ça le modèle du leadership que Jésus nous a laissé. Oui. L'exemple que le Père est supposé donner en exerçant son leadership, c'est d'abord un exemple dans le domaine spirituel. Premier domaine dans lequel il doit exercer son leadership. Le leadership de l'homme s'exerce d'abord dans le domaine spirituel. Frères et sœurs, je vais m'adresser à mes jeunes frères qui s'apprêtent à se marier. La société va vous apprendre et vous apprend déjà que vous êtes prêts pour le mariage si vous savez gagner l'argent. Et d'ailleurs, beaucoup attendent d'avoir l'argent pour se marier. Et une fois qu'ils ont l'argent, ils pensent qu'ils sont prêts. Frères, jeunes frères, si je puis me permettre, il y a beaucoup de problèmes que l'argent ne résout pas. Je connais des gens qui gagnent plus que moi, mais qui envient mon couple. Mais ils ont plus d'argent. D'ailleurs, il m'est même arrivé de les conseiller. Mais ils ont plus d'argent que moi. Le monde nous apprend que c'est l'argent. C'est l'argent. La Bible nous apprend qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Le diable n'est pas impressionné par ton compte en banque. Non, il n'est pas impressionné. Les démons ne tremblent pas devant l'argent. Ils ne tremblent pas. Ils ne tremblent pas devant l'argent. L'ennemi de la stabilité de nos familles n'est pas impressionné par ton patrimoine. Dans l'homme, c'est d'abord l'esprit. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il s'adresse à son peuple, Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 7, voici ce que Dieu dit. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Seront où? Dans ton cœur. Verset 7, « Tu les inculqueras à tes enfants. » Ils seront d'abord dans ton cœur. Et ensuite, tu vas les inculquer dans tes enfants. Tu ne vas pas inculquer dans tes enfants ce qui n'est pas dans ton cœur. Ça doit d'abord commencer par ton cœur. Si ton cœur est régénéré, alors tu peux influencer tes enfants. Oui. Ces commandements seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu seras en voyage, tu en parleras. C'est comme si le Seigneur savait que dans cette génération, il y aura les téléphones. Vous voyez? Il dit, quand tu seras dans ta maison, tu l'inculqueras à tes enfants. Et même quand tu seras en voyage, tu es éloigné, mais tu vas quand même continuer à faire ton devoir. Alléluia! Parole éternelle ne dépend pas de temps et des circonstances. Alléluia. Oui, Dieu savait. Est-ce que vous ne lisez pas ça avec moi? Quand tu iras en voyage, tu en parleras quand même à tes enfants. Or, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Posez-moi la question, comment il ferait? Dieu s'adressait à la génération d'aujourd'hui. Oui. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, matin et soir, que le Seigneur nous aide. Oui, que le Seigneur nous aide. En fait, beaucoup de religions païennes parfois font preuve de plus de dévotion que les chrétiens. Ceux qui ont côtoyé les musulmans, vous savez.
Oui. Moi, j'ai côtoyé les taoïstes, les hindouistes, les animistes. Et j'ai vu ça. Vous entrez dans la maison de ces gens. Vous voyez, en entrant, vous voyez déjà l'autel de son Dieu. Oui. En entrant seulement. Et si vous faites attention à la manière dont il entre, c'est déjà une prière qu'il a faite en entrant. Mais il y a des maisons de chrétiens dans lesquelles vous entrez. Vous n'êtes pas un démon. Mais vous ne sentez même pas que l'atmosphère spirituelle. Mais vous n'êtes qu'un être humain. Vous ne sentez pas. Mais n'est un démon. Hein? Imaginez un peu. Un frère est allé, m'a rapporté ce qui s'est passé dans une campagne d'évangélisation. Ils sont allés en évangélisation au Congo central. Ils sont arrivés dans la maison d'un monsieur. C'était un chef coutumier. Il voulait entrer. Le chef coutumier leur a dit, enlevez vos chaussures avant d'entrer ici. Si vous ne voulez pas enlever vos chaussures, allez avec votre message ailleurs. Mais avant d'amener votre message ici, enlevez d'abord vos chaussures. Alors c'était un dilemme. Parce que quand vous enlevez les chaussures, vous vous soumettez à l'autorité qu'il y a dans cette maison. Et vous venez évangéliser alors que vous vous soumettez déjà. Donc votre évangile, donc déjà il éteint déjà votre évangélisation là déjà. Donc quand vous acceptez d'enlever les chaussures, il n'y a aucune prière, aucune, parce que vous vous soumettez déjà à ces dieux. Ça c'est la maison d'un païen, voyez. Et vous dans votre maison, quand nous entrons, nous nous soumettons à qui? Alléluia. Oui. Il y a des chrétiens qui ont même honte d'inviter les visiteurs à la prière. Ils ont honte. Oui. Ah, c'est mon patron. C'est mon patron, vous voyez. Oui. Lui, il est catholique. Il ne prie pas avec nous. Donc, si je lui demande de prier, ça va le gêner. Il ne veut pas gêner le patron. Mais c'est ta maison. On n'est pas dans l'entreprise, là. C'est ta maison. Mais tu as peur. Vous voyez? Papa, invitez les gens à prier votre Dieu. Alléluia. Exercez votre leadership spirituel. Soumettez-les. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu avait choisi Abraham, bien-aimé dans le Seigneur? Dans le pays de Charan, il y avait beaucoup de gens. Mais Dieu avait choisi seulement Abraham. Dieu a appelé Abraham. Pourquoi? Dieu n'a pas appelé Abraham parce qu'Abraham avait un CV. Non. Abraham était dans une famille idolâtre, polythéiste. Mais Dieu l'a appelé. Dieu lui-même a donné la raison pour laquelle il a appelé Abraham. Genèse chapitre 18, versets 18 à 19. Lisons-le. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi. Pourquoi? Pourquoi je l'ai choisi? Pourquoi j'ai choisi Abraham? Lisons-le ensemble. Afin que qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Alléluia. Dieu a choisi Abraham, pas à cause du passé d'Abraham, mais à cause de ce que Dieu voulait faire avec Abraham. Alléluia. Dieu a choisi Abraham pour que Abraham inaugure une nouvelle ère dans son clan, l'ère du monothéisme. Dieu a choisi Abraham pour que, à partir d'Abraham, une nouvelle page s'ouvre dans cette famille. Qu'un nouveau Dieu soit adoré dans cette famille. Et Dieu s'est d'abord révélé à Abraham.
Donc Abraham devait inculquer à ses enfants les valeurs d'un Dieu qu'il avait lui-même rencontré. As-tu rencontré Dieu avant de fonder ta famille? L'as-tu rencontré? Et puisque Abraham avait une expérience avec Dieu, alors il pouvait exercer son influence sur ses enfants et sur les générations après lui. En fait, le plan de Dieu en choisissant Abraham, c'était un plan intergénérationnel. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous sommes conscients que notre foi a des conséquences dans les générations qui viendront, même après notre mort? Est-ce que nous sommes conscients de cela? Le choix de marcher avec Dieu, mon choix à moi que je fais aujourd'hui de suivre le Seigneur et de le servir, c'est un choix que je sais. Mes enfants seront contaminés. Leurs enfants seront contaminés. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans la famille Bahekwa. C'est aussi sérieux que ça. Oui. Et lorsque vous choisissez une femme, faites attention. Faites attention. Choisissez-la en sachant que les conséquences, c'est dans les générations qui vont suivre. Oui, il ne faut pas choisir seulement sur TikTok. Oui. Ta chandale. Oui. Parce que la génération d'aujourd'hui, c'est compliqué. Oui. Et je dis souvent à mes jeunes frères, avant de vous marier, ah non, je suis tombé amoureux, avant de vous marier, relevez-vous d'abord. Si vous êtes tombé amoureux, relevez-vous d'abord dans l'amour et ensuite mariez-vous. Oui. Si vous vous mariez dans position couchée, c'est très dangereux. Pour se marier, il faut être debout. Il ne faut pas être en position par terre, là. Votre épouse, papa, et vos enfants, ils ont besoin de voir votre exemple, votre leadership spirituel. Ils ont besoin de vous voir prier. Ils ont besoin de vous voir étudier la Bible. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de voir leur papa soumis à l'autorité de Dieu. Ils ont besoin de réaliser que au-dessus de papa, il y a quelqu'un d'autre à qui papa est soumis. Votre épouse a besoin de voir que vous êtes soumis à une autre autorité au-dessus de vous. C'est ça le leadership spirituel. L'homme n'est pas souverain dans sa famille. Non, il n'a pas le dernier mot. Celui qui est souverain, c'est Christ. Alléluia. C'est lui qui est souverain. C'est lui qui a le dernier mot. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme. Et que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. C'est ça le modèle du leadership. Dieu, Christ, l'homme, la femme. Voilà. C'est ça l'ordre. Christ est soumis au Père. L'homme est soumis à Christ. Et la femme est soumise à l'homme. Pourquoi ils ne sont pas soumis à votre autorité? Mais est-ce que vous-même, à qui vous êtes soumis? Voilà. Parce que si vous êtes en rébellion contre Dieu, vous allez transmettre l'esprit de rébellion aux enfants et à votre épouse. Ce n'est pas normal, c'est une déformation d'avoir une famille où la femme est très engagée avec le Seigneur, mais l'homme, lui, il cherche seulement l'argent. Vous êtes en rébellion contre Dieu. Et si votre femme ne se rebelle pas contre vous, vos enfants vont se rebeller, tôt ou tard. Exercez votre leadership. Et beaucoup d'hommes se plaignent de femmes insoumises. Oui, elle est insoumise. Et vous, vous êtes soumis à qui? Est-ce que vous n'êtes pas en train de transmettre à votre épouse et à vos enfants l'insoumission que vous manifestez vis-à-vis du Seigneur? Bien-aimés, je dis ces choses parce que aujourd'hui, beaucoup de familles vont chercher la face de Dieu dans la prière. Mais il y a des délivrances qui n'ont pas besoin de prière. Il y a des délivrances qui ont besoin tout simplement de la repentance. Changez votre modèle de leadership. Et après, priez. Vous allez voir les résultats. Alléluia. Alléluia. Le leadership de l'homme ne se limite pas au domaine spirituel, mais il commence au niveau spirituel. Il commence au niveau spirituel, il s'étend dans tous les autres domaines, dans le domaine relationnel et même dans le domaine professionnel. Et c'est ici que je vais terminer. Le leadership de l'homme va jusque dans le domaine professionnel. Je parle du leadership de l'homme dans la famille. Le père doit fournir la direction à sa famille sur la manière de gagner l'argent. Je ne dis pas que c'est l'homme qui doit gagner plus d'argent. Non. L'homme fournit la direction sur la manière de gagner l'argent. Parce qu'il y a des manières de gagner l'argent qui sont en abomination devant le Seigneur. L'homme fournit le leadership sur la manière de gagner l'argent. Et il montre l'exemple lui-même, comme je l'ai dit. Il montre l'exemple. Et s'il ne sait pas comment gagner l'argent, il doit apprendre. Papa, nous devons apprendre à gagner de l'argent. On ne naît pas avec ça, on apprend ça. Oui, ça s'apprend. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et il faut seulement de l'humilité pour apprendre. Et apprendre ici, je ne parle pas de l'université ou de l'école. On peut apprendre auprès de quelqu'un qu'on côtoie. Et je prie le Seigneur, pasteur, que cette église soit un lieu d'apprentissage pour que la pauvreté quitte nos familles dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a des parmi nous des papas qui ont réussi. Mais nous nous saluons, shalom, shalom. Mais cette bénédiction, nous nous saluons seulement la main. Le contact, c'est seulement à la main. Mais le contact ne devient pas financier. Vous voyez ça? La communion n'est pas parfaite. Quand la communion est parfaite, ce n'est pas seulement la main, mais même les finances aussi. N'est-ce pas? Le faire aiguise le faire. Oui. Comment nous allons côtoyer des millionnaires et nous-mêmes, nous sommes pauvres? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Et qu'il y a un problème dans la communion. Alléluia, les papas. Ah oui. Nos papas qui ont réussi financièrement doivent nous dire comment ils font. Du moins, si c'est divin. Ah oui. Ils doivent nous dire comment ils font. Ils doivent nous révéler des stratégies. Comme ça, déjà au mois de mars, toutes les souscriptions sont libérées, les souscriptions au budget. On passe à autre chose. Voilà. Est-ce que nous prions comme ça? J'aimerais, le vendredi, nous allons prier. Oui. Mais moi, en préparant ces messages, je suis en train de noter des sujets de prière. Nous devons passer à une autre saison. Ah oui. Oui. Nous devons passer à une autre saison. Même s'il y a crise dans le pays, il y avait crise en Égypte. Mais en Égypte, il y avait la crise, il y avait aussi Goshen. Alléluia. Il y avait la crise en Égypte, mais il y avait aussi Goshen. Moi, je prie que Dieu fasse de cette paroisse le Goshen de Goma. Alléluia. Et Dieu va le faire par des hommes qui vont exercer leur leadership dans le domaine financier. Oui. Comment gagner l'argent? Comment utiliser l'argent? Comment fructifier l'argent? Le leadership de l'homme doit aller jusque-là. Parce que la stabilité de nos familles en dépend aussi. Beaucoup de familles sont devenues instables. Ce n'est pas les démons. Non. il n'y a pas d'argent. C'est ça le problème. Il n'y a pas l'argent. Et il n'y a pas de leadership sur comment fructifier l'argent. Et pourtant, nous avons au milieu de nous celui à qui appartient l'or et l'argent. Mettons-nous debout, bien-aimés. Nous allons prier. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Est-ce que tu veux répondre à cette question dans la prière? Où es-tu? C'est la question que le Seigneur t'adresse ce soir. Est-ce que tu peux lever la voix et dire au Seigneur, « Seigneur, je suis disponible devant toi. » Peut-être que tu réalises que tu t'es égaré. Tu as quitté ta maison. Tu as abandonné tes responsabilités à ton épouse ou à la berceuse ou à quelqu'un d'autre. Mais tu veux dire, « Seigneur, je suis là, là où tu m'as placé. Je reviens. Je reviens. Je reviens à la position que tu m'as donnée initialement. » Je reviens dans ma position de chef, chef de ma famille, mais chef soumis à Christ, chef sous l'autorité de Christ. Maman, tu es là, prie pour ton mari. Prie pour ton mari. Jeune fille, jeune garçon, tu es là, prie pour ton père. Et le père, ce n'est pas forcément ton père biologique. C'est celui qui a été pour toi un père. Quel qu'il soit, prie pour lui. Dis Seigneur, 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 je veux que lorsque tu poses cette question, où es-tu? Que mon mari dise, je suis là Seigneur. Que mon père dise, je suis là Seigneur. Je suis là. Je suis là Seigneur, nous sommes là. Nous voulons relever le défi du leadership, non pas seul, mais avec toi. Avec toi, Seigneur. Parce qu'une personne avec toi, c'est la majorité. Rien n'est impossible à toi. Ils n'ont jamais regretté ceux qui ont placé leur confiance en toi. Seigneur, influence-nous, Seigneur, dans cette paroisse. Et qu'une page nouvelle s'ouvre dans nos familles. Qu'une page nouvelle s'ouvre. Que les hommes de cette paroisse se lèvent. Que les hommes de cette parole-là se lèvent spirituellement, dans tous les ministères, dans leur famille, dans cette société. Que le leadership de l'homme chrétien soit visible en politique, dans les affaires. Alléluia. Fais-nous du bien, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Est-ce que nous pouvons acclamer le nom du Seigneur ?